VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 6 juillet 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Arnold Butson. Pour commencer, les titres.
Sommet des leaders d'Afrique de l'Est sur le Burundi aujourd'hui à Dar es Salaam.
Au Burundi même, le CNDD-FDD au pouvoir récuse le nouveau médiateur onusien Abdoulaye Bathily du Sénégal.
Nouveaux attentats de Boko Haram au Nigeria. Au moins 200 personnes ont été tuées ces derniers jours dans le nord-est du pays.
Démission du ministre grec des Finances après le non massif de ses concitoyens hier lors du référendum sur les nouvelles mesures d'austérité exigées par l'Europe.
Les ministres du P5+1 et de l'Iran se retrouvent aujourd'hui à Vienne pour les dernières heures de la négociation en vue d'un accord définitif sur le nucléaire iranien.
Le pape François est arrivé hier à Quito en Équateur, première étape d'une tournée de 8 jours qu'il mènera aussi en Bolivie et au Paraguay. Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
Les leaders d'Afrique de l'Est doivent donc se retrouver aujourd'hui à Dar es Salaam en Tanzanie pour discuter de la crise burundaise. Au Burundi même, le CNDD-FDD, parti au pouvoir, et ses alliés ont récusé le nouveau médiateur dans la crise burundaise, le Sénégalais Abdoulaye Bathily. Il lui reproche notamment de ne pas s'être annoncé chez les plus hautes autorités du Burundi, dont le président Pierre Nkurunziza, dès son arrivée, mais d'avoir plutôt privilégié des diplomates et l'opposition et d'avoir demandé un report des élections. Que faut-il attendre du sommet de Dar es Salaam ? Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur Fabien Sichahayo de l'Université de Montréal.
Moi, j'ai dit que je ne pense pas qu'il puisse aboutir à quelque chose qui va aider le Burundi parce que déjà, il y a des divergences entre eux. Il y a le président tanzanien qui soutient inconditionnellement le président burundais. Il y a le président rwandais qui est opposé. Tout récemment, certains ont sorti des communiqués dans lesquels ils disaient que les élections se sont bien déroulées. Ça en posait le problème de la légitimité de ces élections. Alors moi, je n'attends pas beaucoup de cette réunion.
Sur le front intérieur, le parti au pouvoir et ses alliés récusent le nouveau médiateur, Abdoulaye Bathily. Ce qui complique davantage la tâche.
Oui, moi je pense que tant que ces gens-là ne vont pas mettre l'accent sur le bien-être des Burundais, ils vont toujours récuser tous les médiateurs parce qu'ils veulent demander aux médiateurs de prendre position pour eux. Tout récemment, ils ont récusé le médiateur Gini parce que certains, ceux de l'opposition précisément, disaient qu'ils penchaient pour le gouvernement. Maintenant, ce sont les gens du gouvernement et les gens qui sont proches du gouvernement qui récusent le nouveau médiateur. Même les médiateurs, les anciens médiateurs, à savoir le président tanzanien Julius Nyerere et le président Mandela, n'étaient pas accepté de guider de cœur par tout le monde. Mais on a fini par aboutir aux accords d'Arusha. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des résistances de toute façon. Au fond, ce qu'il refuse, ce n'est pas forcément les médiateurs. C'est d'abord le dialogue. Mais il viendra un moment où ils ne pourront plus le refuser.
Le professeur Fabien Chichahayo de l'Université de Montréal au Canada.
Deux fortes explosions ont eu lieu hier à Jos, dans le centre du Nigeria, a annoncé la police. L'une a eu lieu dans le parc de Bauchi et l'autre près de la mosquée Diantaya, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de l'État du Plateau, qui n'a pas pu préciser s'il y avait des victimes.
Et toujours au Nigeria, les islamistes de Boko Haram continuent de sévir dans le nord-est du pays à travers des attaques et des attentats suicides qui ont fait au moins 200 morts ces derniers jours. Certaines attaques ont eu lieu près de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno et berceau du groupe islamiste. Les habitants ont à nouveau l'impression d'être assiégés. Timothée Donangmaï a joint sur place un enseignant qui témoigne sous anonymat pour des raisons de sécurité.
En entrant dans le pavillon des urgences, on a vu des corps. Dans la morgue, il n'y avait plus de place. Il y avait des corps entassés, il y avait des corps déchiquetés, une quinzaine de voitures qui faisaient qu'entrer, déposer les corps et qui ressortaient. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai pas pu rester 5 minutes, je suis reparti. On a demandé d'où venaient tous ces gens-là. On disait qu'ils viennent des villages à la périphérie de la ville et que c'est des victimes des bombardements. Est-ce que c'est le bombardement de notre armée ou bien c'est le bombardement des insurgés? Aucune précision. On nous laisse tout dans le noir.
Le leader d'une association musulmane du Nigeria a suggéré un dialogue avec les insurgés pour réduire la violence. Que pense-t-on de cette idée?
Les pré- premières fois, je mets ça au pluriel, les premières fois, je crois que c'était à Kaduna ou bien à Sokoto. Normalement, il y avait une représentation d'insurgés et puis le gouvernement, quand ils sont arrivés là-bas, au lieu de négocier, ils ont voulu arrêter les représentants des insurgés. Le gouvernement a fait exprès et donc la négociation n'a pas eu lieu. Et d'autres opportunités se sont présentées aussi, mais apparemment, le gouvernement délibérément faisait que la négociation ne marche pas. Et donc, maintenant qu'on en parle encore, les gens n'ont pas confiance, les gens n'y croient plus.
Pour leur part, les États-Unis ont assuré le Nigeria de leur soutien dimanche après la série d'attaques meurtrières imputées au groupe islamiste Boko Haram, appelant à traduire les responsables de celle-ci devant la justice. Nous allons continuer à soutenir les efforts du Nigeria pour traduire les responsables de ces attaques ainsi que les attaques précédentes devant la justice, a déclaré le porte-parole du département d'État, John Kirby, en présentant ses condoléances aux familles des victimes. Comme nous l'avons déjà dit, les habitants du nord du Nigeria ont le droit de vivre sans subir violence ou terreur, et nous allons continuer à travailler étroitement avec le gouvernement nigérian et nos partenaires internationaux pour lutter contre Boko Haram et venir en aide à ces nombreuses victimes, a souligné John Kirby, précisant que Washington apporter son aide en matière de lutte antiterroriste au Nigeria. Le porte-parole a aussi salué les gains de l'armée nigériane et des forces camerounaises, tchadiennes et nigériennes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grèce, le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, a démissionné aujourd'hui, un jour après que ses concitoyens ont rejeté à une majorité écrasante les mesures d'austérité exigées par l'Europe en échange de nouveaux plans de sauvetage. Il a expliqué qu'on l'a informé d'une certaine préférence de certains membres de l'Eurogroupe pour son absence des réunions. Une idée, je cite, que le Premier ministre, Alexis Tsipras, a jugée potentiellement utile à l'obtention d'un accord. Fidèle à lui-même, M. Varoufakis a déclaré selon l'AFP « Je porterai le goût des créanciers avec fierté ». Le dégoût des créanciers avec fierté. Les Grecs ont dit non avec une majorité de 61,31% contre 38,69% selon les résultats quasi définitifs publiés lundi par le ministère de l'Intérieur, les précisions de Timothée Donangmaï.
La Grèce a ainsi choisi d'ignorer l'appel de l'Union européenne à plus de sacrifices, courant le risque d'être exclue du bloc de 19 pays. Un porte-parole gouvernemental a assuré que le Premier ministre Alexis Tsipras vient de recevoir du peuple grec un mandat clair pour négocier un plan de sauvetage au terme plus favorable avec les créanciers du pays, ses voisins, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Des milliers de Grecs sont sortis hier sur la place principale d'Athènes pour célébrer la victoire du non. Après l'incapacité de la Grèce la semaine dernière à honorer le remboursement d'une dette de 1,8 milliard de dollars du Fonds monétaire international, les leaders européens avaient averti qu'une victoire du non au référendum signalerait une volonté de quitter la zone euro et de divorcer politiquement avec l'Europe. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont annoncé hier qu'ils se retrouveront aujourd'hui à Paris pour évaluer les conséquences du référendum grec.
Les ministres des grandes puissances et de l'Iran se retrouvent lundi à Vienne pour les dernières heures de la négociation en vue d'un accord historique sur le nucléaire iranien dont l'issue demeure incertaine au terme d'années de discussion. Pour le secrétaire d'État américain John Kerry, des progrès réels ont été faits ces derniers jours, mais avertit-il, les négociateurs n'ont pas encore atteint leur objectif sur plusieurs points importants pour conclure un accord définitif avec l'Iran. La nouvelle date butoir a été fixée au 7 juillet.
Enfin, le pape François, le premier souverain pontife originaire d'Amérique latine, a entamé hier à Quito, en Équateur, une tournée de 8 jours qui inclut des visites en Bolivie et au Paraguay. Sa tournée est axée sur la justice sociale pour les laisser pour compte, particulièrement, a-t-il souligné, les victimes de la culture du rejet.
La Minute Écho avec Nathalie Barge.
Deux trafiquants d'ivoire, un Camerounais et un Gabonais, ont été interpellés à Libreville avec 150 kilos d'ivoire issus du braconnage d'éléphants gabonais, selon l'ONG Conservation Justice, citée par l'AFP. La saisie a eu lieu le 29 juin alors que les deux individus cherchaient à revendre leur butin, selon l'organisation qui collabore avec les autorités gabonaises. Selon le communiqué, l'ivoire était entreposé chez un militaire de l'état-major général des armées ayant affirmé qu'il y était à son insu. L'homme a été entendu par la police judiciaire avant de repartir librement, déplore Conservation Justice. L'État ghanéen a acheté plus de 614 000 tonnes de cacao en 8 mois, a déclaré devant les parlementaires le vice-ministre des Finances, Kassiel Atto-Forson. Selon lui, l'État avait dégagé un budget pour l'achat de 950 000 tonnes, mais il n'a pas pu obtenir assez de fèves des agriculteurs, rapporte l'agence de presse africaine. Le cacao constitue l'essentiel des exportations agricoles ghanéennes. Le ministre sénégalais de l'économie a plaidé à Dakar pour un système d'information cohérente et fiable en matière de statistiques, d'analyse et d'études sur l'emploi afin d'éclairer les décideurs. Amadou Ba présidait vendredi le lancement de la première enquête nationale sur l'emploi au Sénégal, qui sera réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Selon le ministre, le manque de mise à jour sur l'emploi est un frein à l'adhésion du Sénégal à la norme spéciale de diffusion des données du FMI, rapporte l'APA. Il ne s'agit pas de se limiter à des statistiques ponctuelles, mais d'établir un suivi afin de disposer d'outils d'aide à la mise en œuvre de politiques publiques en la matière, a souligné M. Ba.
Les sports avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Idrissa.
Football, nouvelle désillusion pour Stéphane Keshi.
Le sélectionneur du Nigeria a été remercié 2 mois et demi seulement après sa nouvelle prise de fonction. Sa candidature au poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire a probablement du mal à passer auprès de la hiérarchie. Son intérim en sera assuré par des techniciens locaux.
Le football, c'est aussi les éliminatoires du Tchad.
Et la qualification du Sénégal pour le tour préliminaire, déjà vainqueur de la Gambie 3-1 au match aller, les hommes de Moustapha Seck l'ont à nouveau emporté 1-0 à Bako. Ça passe aussi pour le Burundi, tombeur de Djibouti 2-0 et de l'Angola face au Swaziland. Qualification également du Zimbabwe, du Lesotho, du Mozambique et de la Zambie. L'Ouganda sera aussi au tour qualificatif malgré son match nul 1-1 contre la Tanzanie, tout comme l'Éthiopie qui a fait 0-0 au Kenya. Le Mali, la Guinée et l'Afrique du Sud seront aussi présents au tour qualificatif. Et puis Idrissa, le mondial féminin de football a rendu son verdict cette nuit avec la finale entre les États-Unis et le Japon.
Les États-Unis sont champions du monde en battant à Vancouver le Japon 5-2. L'Américaine Carly Lloyd, qui a inscrit un triplé lors de la finale, a été désignée dimanche meilleure joueuse du Mondial 2015 Ballon d'Or par le groupe d'études techniques de la FIFA. Lloyd, qui a livré dimanche à Vancouver un match exceptionnel, a marqué 6 buts au total lors du tournoi. La Française Amandine Henry a été désignée deuxième meilleure joueuse du tournoi Ballon d'argent, devant la Japonaise Aya Miyama, ballon de bronze. L'Américaine Hope Solo a reçu le prix de la meilleure gardienne et la Canadienne Kadisha Buchanan, celui de la meilleure jeune joueuse. On reste en Amérique, Élisée, pour parler de la Copa América, remportée par le pays hôte, le Chili.
Enfin, ce trophée lui revient. Près d'un siècle après sa création et 4 finales perdues, le Chili a vaincu la malédiction sur ses propres terres en s'imposant à Santiago sur l'Argentine au bout du suspense. 4-1, 0-0 à l'issue de la prolongation. Et c'est le gunner national Alexis Sanchez qui a achevé le maigre suspense de cette séance décisive, prolonger la frustration argentine et surtout plonger les supporters chiliens dans une allégresse. Et pour être au complet, Idrissa, c'est le Pérou qui termine 3e grâce à sa victoire de 2-0 face au Paraguay lors du match de classement.
Cyclisme à présent avec le Tour de France.
Lancé samedi à Utrecht, là où le vélo est roi, le Tour de France sera sa 3e étape aujourd'hui, 154 km à partir d'Anvers. André Greipel s'impose hier à Zeeland au terme de la 2e étape étape très mouvementée sur une distance de 166 km. Précisons que Fabien Cancellara, troisième du jour, s'empare du maillot jaune. Et puis Formule 1 et cinquième victoire de la saison pour Lewis Hamilton qui l'emporte sur ses terres à Silverstone. Malgré un départ manqué, le Britannique s'impose devant Nico Rosberg et Sébastien Vettel. Le pilote Mercedes conforte donc sa place de leader au classement du championnat du monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, a désigné ce dimanche Roch-Marc Kaboré, candidat à la présidentielle au Burkina Faso. Et l'investiture de cet ancien baron de l'ex-président Blaise Compaoré, devenu opposant, a eu lieu au moment où une crise politico-militaire secoue le sommet de l'État burkinabé. Comment le candidat Roch Kaboré entend-il mener son parti à la présidentielle de Ouagadougou? Reportage de Zoumana Wonogo.
Les militants du MPP ont désigné à l'unanimité le camarade Roch Christian Kaboré comme candidat de notre parti au présidentiel.
Quel candidat sera-t-il? Écoutons la réponse du candidat Roch-Marc Christian Kaboré.
Je serai le candidat de la démocratie. C'est pourquoi je serai le candidat de la tolérance. Le candidat qui sera à l'écoute des partisans et des adversaires. De tous, sans excès ni faiblesse. Je serai le candidat de la jeunesse et des femmes. Pour rouvrir enfin le chemin de la décision et du pouvoir, je serai le candidat de la confiance retrouvée entre les Burkinabés de tous les âges et opinions de toutes les contrées en vue de continuer à construire une nation forte, paisible et prospère.
L'investiture du candidat du MPP a eu lieu au moment où tout le Burkina retient son souffle à cause de la crise qui oppose le Premier ministre au RSP, régiment de sécurité présidentielle, suivant l'analyse de Émile Paré, commissaire politique du MPP.
Le RSP est une des forces que le régime Blaise Compaoré a utilisées pendant longtemps pour réprimer. L'on comprend qu'avec la transition, les stigmates de ce régime restent. Surtout que le Premier ministre vient de ce régiment. Bien entendu, la transition ne saurait aller sans qu'il y ait des problèmes. Nous voyons cette crise comme une crise passagère qui ne doit pas entraver le processus de transition. Nous allons nous employer à faire partie de cette crise et à dire définitivement que l'armée doit être au-dessous du politique. C'est le politique qui doit diriger l'armée et non l'armée qui dirige le politique.
Une folle rumeur a couru ce dimanche à Ouagadougou, disant que Yacouba Isaac Zida aurait rendu sa démission. Après vérification, son proche entourage nous a assuré que le Premier ministre se rend ce lundi même à Abidjan pour une visite de travail dans le cadre de la coopération Burkina-Côte d'Ivoire. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La procureure de la CPI était à Conakry ce week-end pour la quatrième fois depuis le massacre du 28 septembre. Fatou Bensouda a rencontré les victimes mais aussi le pool des juges en charge du dossier. Elle a appelé à la tenue d'un procès dans un délai raisonnable tout en précisant qu'elle n'était pas en Guinée. Pour le cas de Moussa Dadis Camara, ex-chef de junte de Conakry, Zakaria Camara.
C'était une visite à titre personnel, a précisé Fatou Bensouda. Je suis venu m'informer de la possibilité de tenir un procès d'assises dans un délai raisonnable, poursuit-elle devant la presse, quelques heures après avoir rencontré les autorités guinéennes, mais aussi les juges en charge du dossier du 28 septembre. Des juges dont le travail est qualifié d'encourageant par la procureure de la CPI.
J'ai constaté des progrès importants et encourageants dans l'enquête conduite par le pool des juges d'instruction. De nombreuses personnalités de haut rang ont été inculpées.
Parmi les personnalités inculpées, il y a des généraux et d'anciens membres de la junte qui a pris le pouvoir à Guinée en 2008. Le dossier 28 septembre est complexe, reconnaît le ministre guinéen de la Justice, mais Cheikh Sako précise que la Guinée doit faire preuve de responsabilité.
Les pays d'Afrique sont souvent incapables de gérer ce type de dossier. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Parce que c'est un dossier qui est lourd, parce que c'est un dossier qui touche la vie des gens. Chez nous, on a eu 157 personnes. Ça, quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais ce que je voudrais que vous gardiez surtout dans votre esprit, c'est que la Guinée est obligée d'assumer son rôle pour la résolution de ce type de crime contre l'humanité.
Quelques victimes étaient à la conférence de presse qu'a donnée à Conakry Fatou Ben Souda. Il faut retrouver les fosses communes, a souhaité Madame Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes et parents du massacre du 28 septembre.
Notre association n'a pas de moyens pour pouvoir vraiment les accompagner correctement. Donc, si l'État pouvait vraiment revenir en arrière pour s'occuper de ces femmes, vraiment c'est quelque chose de salutaire. Nous voulons que les enquêtes continuent pour qu'on retrouve les fosses communes.
La procureure de la CPI est arrivé à Conakry quelques semaines après l'annonce par Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte, de son retour au pays.
It is not because of that announcement that I'm interested in coming to Guinea.
Ma visite n'a rien à voir avec l'annonce du retour de Dadis Camara. En octobre, j'ai été invité par le ministre de la Justice, mais mon calendrier m'a empêché d'être à Conakry. Je ne m'intéresse pas à la politique, mais à la justice.
Dadis has announced he's coming, that I am here. I would have been here before if I could find the time.
Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Au Mali, blocage toujours dans la mise en place du comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali. Les différentes parties se sont rencontrées pendant le week-end à Bamako, mais ne sont pas parvenues à adopter le règlement intérieur de ce comité. Elles n'ont pas pu non plus déterminer le nombre de personnes qui doivent composer le comité de suivi, sans oublier la première tâche de ce comité, qui est la gestion des ex-combattants, leur cantonnement et désarmement. De Bamako, Kassim Traoré.
Les membres du comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali se sont retrouvés le week-end passé à Bamako. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale.
L'objectif essentiel, c'est de pouvoir échanger pour l'adoption du règlement intérieur du comité. Le gouvernement du Mali a déjà alloué un bâtiment ici à Bamako pour pouvoir abriter le comité de suivi. Il y a eu un premier projet de règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est essentiellement décidé, une liste nominative, les membres du comité, les modalités de réunion et tout.
Les membres de la plateforme n'ont pas rejeté le document, mais souhaitent une lecture attentive. Maître Aruna Touré, porte-parole de la plateforme.
Il n'a pas été encore adopté parce qu'il y a encore des observations qui doivent être faites de part et d'autre. Certaines parties ont fini de faire le travail, la réflexion sur le règlement intérieur, d'autres non. Alors un petit temps a été accordé pour permettre à chacune des parties d'apporter des observations définitives sur le contenu de ce règlement intérieur.
Ce projet de règlement intérieur n'est pas du goût de tous les Mamadou Djeri Maïga, de la coordination des mouvements de l'Azawad.
Il y a des questions sur lesquelles il faut faire des consultations, notamment la représentativité du comité de suivi et évaluation, qui doit siéger, qui ne doit pas siéger, parce que l'accord est clair, il faut qu'il y ait des coulisses entre les parties. Donc nous avons jugé nécessaire qu'il faut suspendre pour permettre aux gens de se consulter et d'aller de l'avant.
La médiation reste optimiste, car il y a eu des avancées remarquables du début du processus à nos jours. Nordine Ayadi, ambassadeur de l'Algérie au Mali.
Nous avons dégagé certain nombre de consensus. La médiation va continuer ses consultations avec les parties. À la reprise de notre session, nous serons en principe en mesure d'adopter le règlement intérieur et nous passerons à ce moment-là à l'examen du calendrier de mise en œuvre.
La prochaine rencontre du comité de suivi aura lieu le premier lundi après le mois de Ramadan. D'ici là, beaucoup de questions seront aplanies, nous confie la partie malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
À la suite d'un rapport publié le week-end dernier par Amnesty International et dans lequel elle met en cause l'opération Mbata ya Bakolo, Les responsables de la police de Brazzaville ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de mensonge. Pour le porte-parole Jules Moncala Tchoumou, aucun membre d'Amnesty n'a contacté la police congolaise pour recueillir sa version des faits. De Brazzaville, notre correspondant Ngwela Ngusu.
Pour le colonel Jules Moncala Tchoumou, porte-parole de la police congolaise, le rapport d'Amnesty International est truffé de mensonges et d'allégations infondées.
Le rapport est bâti sur un tissu de mensonges. Et le mensonge ne peut pas nous rattraper parce que nous avons la vérité. Nous savons que ce qui est dit ici est faux. S'il n'y a pas de viol, s'il n'y a pas d'exécution sommaire, vous voulez que nous soyons rattrapés par quoi? Nous ne sommes pas concernés par ce qui est dit ici et c'est pour cela que nous sommes venus faire un démenti que nous mettons au défi quiconque prouverait le contraire. Nous avons une commission paritaire qui doit travailler. Nous attendons ce moment, certainement que les preuves, entre guillemets, seront apportées.
Et pourtant, il y a une année, la police congolaise avait sanctionné une vingtaine d'agents pour s'être mal conduits pendant Bataille à Bakolo. Même pour le colonel Moncala Tchoumou, il ne s'agit nullement des violations massives des droits de l'homme telles que l'évoque Amnesty International.
Il s'agit des agents qui avaient subtilisé les téléphones en pleine opération. Il y a donc des agents de la police qui ont été radiés.
Gervin Chefes Ewangi, président de la Fédération congolaise des droits de l'homme, a déploré l'attitude de Amnesty International qui n'a pas contacté les sources congolaises en la matière.
Autant qu'activiste des droits de l'homme, cela nous a aussi révoltés parce qu'il ne faut pas associer le combat pour les droits de l'homme à des considérations d'ordre politique. Je crois que peut-être l'intention avait été bonne, mais les sources d'information n'ont pas été ce qu'il fallait et cela a dû peut-être induire en erreur nos amis d'Amnesty International.
L'opération Bataille à Bakolo, qui a permis l'expulsion de 185 000 ressortissants de la RDC, fait l'objet de vives critiques à travers le monde. Déterminée, la police congolaise a indiqué que l'opération va se poursuivre, voire même s'amplifier à l'occasion des Jeux africains que le pays va organiser en début septembre. Ngwela Ngusu, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Au Niger, les examens du baccalauréat 2015 devaient prendre fin samedi dernier, mais mardi prochain encore, certains candidats vont aller en salle pour reprendre les épreuves de mathématiques, d'histoire et de géographie qui ont été annulées par les autorités pour cause de fuite. Plusieurs candidats sont en effet entrés en possession des épreuves avant d'entrer en salle. De Niamey, Abdourazak Idrissa.
Cette décision, moi je la qualifie d'une décision sévère. Sévère à qui? À nous, les fils de Bob.
On n'est pas d'accord parce qu'ils ne veulent pas qu'on réussisse. C'est insensé. Si les fuites sont divulguées, c'est la faute à eux. On ne doit pas assumer la responsabilité des actes qu'on n'a pas commis.
Dans la même décision, il est annoncé une reprise des dites épreuves le mardi 7 juillet. Mais cela, certains candidats le trouvent aussi discriminatoire.
Normalement, ce qui est faisable, c'est d'annuler toutes les épreuves pour reprendre un nouveau examen. Parce que si on n'a pas repris l'examen entièrement, on va trahir d'autres élèves qui n'ont pas eu de fuite. On n'a qu'à annuler toutes les épreuves. On n'est pas d'accord.
Le ministre des enseignements secondaires explique devant la presse comment les organisateurs se sont rendus compte de ces fuites dont ils ont eu écho quelques minutes seulement avant le début des épreuves d'histoire-géographie dans l'après-midi du mardi.
L'heure du début des épreuves du soir était à partir de 15h. À 14h28, quand j'ai reçu l'appel, on m'a fait comprendre qu'il y a une probable fuite. On ne peut pas vérifier la fuite tant que les enveloppes n'étaient pas ouvertes. À 15h, quand l'enveloppe était ouverte, les sujets traités en dehors des salles d'examen étaient les mêmes qui étaient dans les mains des candidats dans les salles d'examen. Pendant qu'on cherchait à savoir exactement d'où est partie la fuite, on s'était rendu compte effectivement que même les épreuves de maths du lendemain étaient déjà dans les rues. On s'était retrouvé avec l'ensemble de l'équipe de l'université Abdou Momeni qui était censé organiser les épreuves du baccalauréat au Niger pour décider de la conduite à tenir.
La conduite, c'était donc d'annuler les dites épreuves et les reprendre. Entre-temps, une enquête est ouverte pour rechercher les auteurs et les sanctionner. Mais pour la structure des scolaires nigériens, pas besoin d'aller très loin.
Il y a un service chargé d'organiser les baccalauréats. Ça suppose que les responsabilités sont déjà situées.
que toutes ces personnes-là soient sanctionnées en les mettant à la disposition de la justice.
Il y a certes eu par le passé des fuites, mais cela n'a pas conduit à l'annulation des épreuves. C'est donc inédit dans l'histoire récente des examens ici au Niger et c'est tout aussi surprenant que grave, selon l'acteur de la société civile Nuhu Mahamadou Arzika. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.